dream.
It's one small step for man, one giant leap for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 26 avril 2024. Vous êtes sur VO Afrique, nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. Et ce soir, nous parlons TikTok et de ses déboires aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Le Congrès américain a adopté cette semaine une loi qui prévoit l'interdiction de TikTok aux États-Unis, à moins que le réseau social ne coupe ses liens avec sa maison mère Biden's et plus largement avec la Chine. Pékin est accusé d'utiliser la plateforme des vidéos pour espionner et manipuler ses utilisateurs aux États-Unis. Sa potentielle interdiction risque toutefois d'être contestée en justice. TikTok a vivement dénoncé l'adoption de cette loi par le Congrès américain. Le projet de loi adopté sur une base bipartisane bafouerait les droits à la liberté d'expression de ces 170 millions d'utilisateurs américains, estime la plateforme digitale. L'application de cette loi dévasterait aussi au moins 7 millions d'entreprises et fermerait une plateforme qui contribue à hauteur de 24 milliards de dollars à l'économie américaine chaque année, a déclaré un porte-parole de TikTok. Réagissant sur cette interdiction, Elon Musk, patron de X, anciennement Twitter, s'est dit contre cette loi, bien qu'elle signifierait moins de concurrence pour sa plateforme des médias sociaux X. Et TikTok n'a pas seulement des problèmes aux États-Unis. Bruxelles a ouvert lundi une enquête visant la nouvelle application TikTok Lite, une fonctionnalité du réseau social chinois qui récompense le temps passé devant les écrans au risque d'augmenter l'addiction. Que fera TikTok face à toute cette pression et que reproche-t-on concrètement à TikTok? Nous essayerons avec nos invités de mieux comprendre cette affaire qui fait bouger TikTok, l'un des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde. Pour nous accompagner tout au long de ce programme, nous avons Gemal Afagnon. Il est spécialiste des médias numériques et responsable pour l'Afrique de l'Ouest au sein d'Internet sans frontières. Vous êtes aussi par ailleurs auteur de TikTok, la politique de désinformation sous couvert du divertissement en Afrique, un article scientifique publié dans International Journal of Progressive Science. Gemal Afagnon, bonsoir.
Bonsoir John Linden et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de la VOA.
Merci d'être avec nous. Bogas Orun-Duyoum est directeur du cabinet d'e-réputation et de veille stratégique, ICT Media Strategies. Vous êtes aussi directeur de publication de la plateforme digitale Business Africa. Vous êtes basé à Yaoundé au Cameroun, mais vous vous trouvez en ce moment à Brazzaville au Congo où vous participez au salon OCEAN consacré aux technologies et à l'intelligence artificielle. Bogas, bonsoir.
Bonsoir John et bonsoir aux auditeurs de la VOA.
Ravi de vous avoir parmi nous. Henri Désiré Zouzi est producteur associé du JT Diplomatique. Vous organisez aussi Networking, un événement qui a lieu chaque mois à Kinshasa et qui met en contact les opérateurs économiques, les diplomates et les acteurs divers. Henri Désiré, bonsoir. Merci pour votre disponibilité.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Alors je commence par vous Henri Désiré. Qu'est-ce que vous pensez de cette récente actualité aux États-Unis dans le monde des réseaux sociaux et de cette législation concernant TikTok et ses liens avec la Chine?
Ben, disons que c'est la conséquence logique d'une guerre larvée que se livrent les États-Unis et la Chine depuis déjà plusieurs années, pas seulement sur le front commercial et économique. C'est une guerre d'influence et donc cette législation récente concernant TikTok et ses liens avec la Chine reflète ni plus ni moins les préoccupations croissantes concernant la sécurité des données, mais aussi la protection de la vie privée. Donc, je pense que les craintes liées à la sécurité nationale ont largement motivé ces actions réglementaires et donc le vote qui a été adopté.
Gemma Fagnon, comment cette législation peut-elle influencer la présence mondiale de TikTok, notamment dans des pays développés et pourquoi pas en Afrique?
Alors, la législation en cours, la législation en cours aux États-Unis d'Amérique, en fait, un cas assez intéressant à observer parce que grâce à elle, TikTok pourrait devenir une sorte d'ennemi numéro un aux États-Unis, mais aussi dans de nombreuses contrées à travers le monde. Donc, en Europe, déjà, on sait qu'il y a plusieurs pays qui ont pris des mesures pour interdire à leurs fonctionnaires de télécharger cette application donc sur leur téléphone. C'est déjà un premier point qui peut freiner le rayonnement de cette application qui dispose de 2,5 milliards d'utilisateurs actifs de par le monde. Mais c'est un réseau social qui suscite également en même temps qui dispose d'un rayonnement, donc c'est aussi un réseau social qui suscite également un torrent de critiques. On a vu l'Inde, par exemple, interdire cette application il n'y a pas très longtemps. Jusqu'à récemment, en Afrique, TikTok semblait être un havre, disposer d'un havre. Mais l'application de partage de vidéos commence à aussi donc subir des critiques. Et cette tendance risque de s'accentuer sur le continent africain. Donc l'année dernière, par exemple, on a vu le président kényan William Ruto qui avait annoncé donc qu'il souhaitait discuter de certains mécanismes de modération avec le PDG de TikTok. La décision du président kényan était intervenue après un débat houleux au Parlement kényan concernant l'éventuelle interdiction de l'application dans le pays. Et suite à une pétition sur le sujet, les députés donc avaient mené des débats sans toutefois parvenir à une décision concrète, mais le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité nationale avait estimé que des mesures pourraient être mises en place pour aller dans le sens d'une protection des données, comme le disait M. Ndouzi. Et à côté du cas kényan, on a vu aussi que TikTok aussi donc a subi donc la fronde des autorités du côté du Sénégal, de la Somalie. Donc cette loi qui est en train d'être adoptée par le Sénat américain pourrait faire des émules en Afrique et impacter sérieusement le développement du réseau social sur le continent.
En tout cas, TikTok a 12 mois pour se conformer. Bogas, vous êtes, on le disait, directeur de publication d'une plateforme digitale. De votre point de vue, quelles sont les principales préoccupations ou critiques concernant l'influence des TikTok sur les interactions sociales et la création de contenu, vous qui gérez un contenu digital chaque jour?
Alors, concernant cette préoccupation, je pourrais la situer à trois niveaux. D'abord, au niveau des questions de sécurité, la question de l'espionnage, et ensuite l'addiction. Sur la question de sécurité, il faut relever que l'une des raisons qui a poussé les États-Unis à signer cette disposition, il y a le responsable du FBI qui a indiqué que TikTok représentait une menace sur la sécurité. Menace pourquoi? Parce que ils estiment que TikTok vole les solutions d'intelligence artificielle développées par des entreprises américaines. Là, c'est le premier volet qui a été évoqué par le FBI. Le deuxième volet, c'est les soupçons d'espionnage. Donc, il y a une préoccupation sur l'espionnage. C'est pour ça que les différents agents publics aux États-Unis ont été interdits d'utiliser cette application pour la simple raison que la plupart des applications, ce n'est pas seulement TikTok, mais la plupart des applications des réseaux sociaux utilisent des cookies qui permettent de collecter les informations des utilisateurs afin de leur proposer ces publicités ciblées. Bon. TikTok, c'est-à-dire les États-Unis, estiment qu'il y a possibilité d'utiliser les données de ces utilisateurs-là pour des fins de guerre économique, comme on l'a indiqué dès l'entame. Et enfin, l'addiction, vous savez, vous l'avez évoqué tout à l'heure à l'introduction, TikTok a introduit dans plusieurs pays les récompenses pour les utilisateurs qui passent plus de temps
sur le réseau social. Et c'est l'objectif, en fait, de chaque réseau social, c'est de trouver les moyens pour maintenir le plus longtemps possible les utilisateurs sur leur plateforme. Et je pense que c'est, en fait, globalement, l'ensemble de ces trois éléments qui préoccupent les États-Unis et surtout relever que cela révèle surtout de la guerre économique que se livrent les États-Unis et la Chine depuis plusieurs années.
Alors, Harry Désiré Zouzi, est-ce que c'est au nom de cette guerre économique que TikTok est particulièrement visé? Parce qu'il n'y a pas que TikTok qui gère les données, il y a Facebook, il y a X, il y a d'autres réseaux sociaux qui collecte nos données chaque jour. Selon vous, quel défi pourrait se poser pour des plateformes comme TikTok, justement, dans la navigation des réglementations internationales aujourd'hui?
Alors, ce qui vient d'être décrit fort justement par mes co-débatteurs montre qu'il y a une vraie prise de conscience au niveau des États. On a évoqué effectivement l'exemple kényan qui montre qu'aujourd'hui, la principale menace, elle est d'ordre à la fois numérique, technologique et liée à la communication sous toutes ses formes. Et donc, les plateformes comme TikTok naviguent en fait dans un paysage réglementaire international qui est très complexe, mais où finalement on se rend compte que différentes juridictions ont des normes et des préoccupations différentes en matière de sécurité, des données notamment et de vie privée. Cela étant, tous ces défis incluent, à mon sens, hein, ça n'engage que moi, l'harmonisation de politiques de conformité, mais surtout une réponse aux exigences spécifiques de chaque marché. Parce que aujourd'hui, une des règles essentielles pour les États, c'est véritablement de se protéger contre un fléau. Je parle notamment du cyberterrorisme et de toute autre attaque de même nature, qui ont potentiellement la capacité de déstabiliser toute une économie, voire même une nation. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, il y ait ce principe de précaution.
Alors, Guéma Lafagnon, comment les plateformes comme TikTok peuvent-elles équilibrer l'engagement des utilisateurs avec des considérations éthiques, surtout dans des régions aux normes culturelles diverses? On observe que selon qu'on soit en Chine, aux États-Unis ou en Afrique, l'algorithme de TikTok se comporte différemment et l'engagement des utilisateurs est aussi différent.
Oui, donc vous touchez un point sensible en parlant d'algorithme parce que c'est en général la botte secrète des réseaux sociaux, donc c'est un peu leur arme secrète, leur arme fatale, et c'est une arme en fait qui est utilisée de façon différente, qu'on cible par exemple des utilisateurs en Amérique du Nord, en Afrique ou en Europe. Mais ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui nous sommes dans un contexte où la liberté d'expression sur les réseaux est un droit fondamental. C'est peut-être un droit aussi qui pourrait d'ailleurs permettre dans le contexte actuel à TikTok de se tirer d'affaire, peut-être, mais cette liberté d'expression peut entrer en conflit avec d'autres valeurs, des valeurs très importantes comme le respect de la dignité humaine par exemple ou le respect de la vie privée en ligne. Donc c'est des points essentiels sur lesquels il est important de trouver un consensus. Et les réseaux sociaux tels que TikTok sont souvent critiqués pour leur gestion approximative des contenus haineux, par exemple, des contenus discriminatoires ou violents. Des entreprises comme TikTok doivent donc aujourd'hui trouver un équilibre entre la protection de la liberté d'expression, entre l'expansion de leurs activités commerciales en ligne et la prévention de certains abus à travers la modération de contenu sur leur plateforme, mais aussi à travers un secteur d'activité encore très opaque qui est l'algorithme. Donc on revient encore une fois à l'algorithme, donc qui est la botte secrète dont je parlais. Donc sur TikTok, c'est important justement qu'on fasse plus de transparence par rapport à l'algorithme, parce que TikTok, c'est d'abord des jeunes, c'est des adolescents qui créent des contenus à l'intention d'autres jeunes en fonction de leur goût, de leur centre d'intérêt, de leurs préoccupations d'adolescents, et ces jeunes n'ont pas de maîtrise sur ces contenus. Donc il est important de mettre des garde-fous en place, car une telle application peut avoir une emprise dramatique sur certains jeunes. On a vu TikTok aussi favoriser en Afrique déjà, malgré son jeune âge, des campagnes de manipulation, des campagnes d'influence politique, mais il ne faut pas perdre de vue, comme le disaient mes co-débatteurs, en mettant ces garde-fous, que nous sommes à une période charnière dans les relations internationales où la Chine fait figure aujourd'hui de grand rival stratégique des États-Unis. Et les États-Unis ont quelque part peur d'une chose qu'ils n'avouent pas directement, mais ils ont peur justement que la Chine aujourd'hui soit en mesure de rivaliser au plan technologique avec eux, ou même de leur damer le pion sur le plan technologique, parce que quand vous prenez TikTok aujourd'hui, c'est l'un des rares l'un des rares réseaux ou programmes technologiques qui a réussi à essaimer au-delà des frontières chinoises et qui dispose aujourd'hui d'un rayonnement sur le plan international. Donc les Américains ont quelque part peur que cette application leur dame le pion. Et quand on regarde par exemple le Sahel, on peut faire établir un parallèle par rapport à ces peurs et voir un peu qu'est-ce qui pourrait se passer si cette application parvenait à damer le pion, par exemple.
Alors, Gemal, on va...
Cette technologie très dominée par les applications américaines.
On va poursuivre le débat le temps d'une petite pause.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Si vous prenez l'écoute de VO Afrique, vous êtes dans l'Amérique et vous. Ce soir, nous parlons de TikTok et de ses déboires aussi bien ici aux États-Unis qu'en Europe. Bogas, TikTok est accusé de promouvoir des comportements addictifs. Gemal Fagnon en faisait allusion tout à l'heure. Comment pensez-vous que les plateformes devraient aborder de telles préoccupations tout en maintenant l'engagement des utilisateurs? En d'autres termes, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour éviter surtout aux utilisateurs de passer des heures et des heures sur TikTok?
Effectivement, les utilisateurs passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Peut-être faut-il indiquer aux éditeurs le nombre de temps que font les utilisateurs sur que font les internautes en fait sur les réseaux sociaux. D'après une étude de Data Portal, c'est une étude qui a été menée aux États-Unis, le réseau social qui rassemble le plus d'utilisateurs par jour, c'est Facebook, avec environ 33 minutes de temps passé par les près de 2 milliards d'utilisateurs qu'il a. TikTok vient avec vient en deuxième position avec 32 minutes, avec juste 33 millions d'utilisateurs. Il y a également Instagram qui vient à 29 minutes. Donc ce sont en fait le temps moyen passé par les internautes sur les réseaux sociaux. WhatsApp vient avec 28 minutes d'utilisation moyenne par jour pour ses 500 millions d'utilisateurs quotidiens. Alors, ce qu'il faut faire, je pense qu'il faut agir sur trois secteurs. Le premier secteur est celui de la sensibilisation. Il faut beaucoup de sensibilisation de la part des États, de la part des organisations de la société civile, de la part également des écoles qui forment nos élèves, nos étudiants. Deuxième niveau d'action qu'on peut faire, il y a les régulateurs qui peuvent demander à ces acteurs de l'économie numérique, pas seulement à TikTok, mais également à Facebook, à tous les réseaux sociaux qui existent, de proposer davantage des contenus éducatifs à leurs utilisateurs. Ce n'est pas toujours ce qui est fait. On a évoqué tout à l'heure le cas de TikTok qui propose des contenus qui entre guillemets, abrutissent ou alors maintiennent davantage les personnes sur la plateforme. Et enfin, je pense qu'il faut soutenir, c'est-à-dire que les différentes plateformes numériques, que ce soit TikTok,
Meta, avec ses groupes de réseaux sociaux, ou encore même X, ils doivent soutenir les organisations et les associations qui proposent des formations aux jeunes pour que ces jeunes-là ne soient pas très addictifs. Et voilà. Tout commence également à la maison, je veux dire, chaque parent doit dire à son enfant vraiment éviter de rester très longtemps sur les réseaux sociaux. C'est une question difficile à adresser, mais avec ces actions-là, on peut parvenir à faire quelque chose.
Merci, Bogas. On aborde les cinq dernières minutes de cette émission. On va être un peu plus rapide et succinct dans nos réponses. Henri Désiré, quel impact économique potentiel pourrait survenir si TikTok fait face à des restrictions ou des interdictions sévères dans des marchés clés comme ici aux États-Unis ou encore en Europe?
Écoutez, les conséquences seront dévastatrices parce que TikTok, depuis quelques années déjà, s'était positionné comme un des leaders dans le secteur. Et donc, toutes ces restrictions ou ces interdictions sévères qui frappent aujourd'hui TikTok dans des marchés qui sont très importants quand même, les États-Unis ou l'Europe, auront des conséquences forcément économiques significatives, aussi bien pour l'entreprise elle-même que pour les créateurs de contenu, parce qu'on oublie souvent de le dire, derrière tout cela, il y a des créateurs de contenu, et je ne vous parle même pas des annonceurs qui dépendent étroitement de cette plateforme pour leur activité. Alors, ce qui a été dit tout à l'heure par rapport aux régulateurs, j'abonde absolument dans ce sens, parce que les gouvernements, aujourd'hui, et les régulateurs, devraient justement adopter une approche peut-être plus équilibrée, qui garantisse à la fois la protection de la vie privée, mais aussi et surtout, parce que c'est le fond du problème, la sécurité en ligne tout en encourageant l'innovation. Mais cela peut forcément inclure des normes de conformité claires. Il faut vraiment que les choses soient faites de manière transparente, avec des mécanismes de surveillance qui soient, je dirais, efficaces et des incitations à l'adoption de meilleures pratiques en matière de sécurité des données. Et ça, c'est véritablement la clé à une époque où justement l'agressivité de certains États dans un contexte géopolitique fragmenté incite certains justement à utiliser des moyens non conventionnels pour affaiblir leurs adversaires.
Gemma Fagnon, avec la montée de l'activisme numérique, comment voyez-vous les plateformes comme TikTok contribuer ou entraver le discours social et politique en Afrique?
Je pense qu'avec l'essor de la téléphonie mobile en Afrique, avec l'essor d'Internet mobile, avec l'essor que connaissent les réseaux sociaux en général, TikTok, une application comme TikTok continuera d'amener un grand nombre d'internautes à jouir de leurs droits numériques, à participer à une certaine forme de citoyenneté en ligne. Cependant, il y a un enjeu crucial qui consiste à amener ces réseaux sociaux tels que TikTok à respecter l'état de droit. Donc c'est important de trouver, comme le disait mon prédécesseur par exemple, de trouver les mécanismes adéquats pour amener ce genre de réseau social à respecter l'innovation en Afrique, les procédures, les us, les coutumes, qui permettent de garantir la liberté individuelle et la liberté fondamentale.
Alors.
Et c'est aussi important aux gouvernants et aux régulateurs de se pencher sur ces acteurs, en fait, pour essayer d'encadrer leurs activités.
On va faire
plus sérieux, ouais.
On va faire un dernier tour de table, 20 à 25 secondes chacun. On commence par Bogas. Est-ce que vous utilisez TikTok et qu'est-ce que vous y apprenez ou pourquoi y êtes-vous?
Je n'ai pas très bien suivi.
Est-ce que vous utilisez TikTok?
Ben, pas encore.
Voilà, pas encore.
J'ai commencé à l'utiliser juste pour tester quand c'était lancé, mais juste après quelques 2-3 jours, j'ai arrêté en fait.
Voilà, Henri Désiré Nzouzi, vous utilisez TikTok ou pas? Henri Désiré?
Désolé, je disais, non, je n'utilise pas du tout TikTok.
C'est tant mieux pour vous. Gemma Lafagnon, vous utilisez TikTok, vous avez écrit là-dessus, au moins, je suppose.
Oui, j'ai écrit sur TikTok.
Voilà.
C'était une expérience intéressante à faire après
cette
expérience d'observation électorale.
Merci, c'est la fin de cette émission qui était produite par Lionel Gaïma, présentation John Lyndon. Je vous laisse en compagnie de Jean-Roger Billon, c'est pour les informations. Et restez sur VO Afrique 24h sur 24.